France Inter, le 18-20.
C'est un peu la suite de MeToo, la suite de Balance ton porc, une suite indispensable qui ne parle pas de répercussions judiciaires, qui ne parle pas de tribunaux, qui ne parle pas que de femmes non plus. C'est une suite qui parle des hommes, mais qui parle aux hommes. Vous verrez les spots de pub, ça a commencé en fin de semaine dernière. Vous en avez peut-être vu passer quelques-uns d'ailleurs avant les matchs de foot ou de rugby. Et c'est important, des spots qui parlent à travers quelques scènes faciles et très quotidiennes d'éduquer les garçons dans la lutte contre les inégalités. Tout simplement, c'est la Fondation des Femmes qui lance cette initiative et le hashtag « Tu seras un homme, mon fils » après avoir lancé en février dernier et soutenu par 150 personnalités. Maintenant, on agit. Et en effet, cette conversation sur le féminisme, sur leur place, leur rôle, sur comment se défendre dans tous les sens du terme, sur ce qu'il faut comprendre, gagner, les femmes l'ont depuis des décennies. On sait dire aux petites filles, aujourd'hui, tu peux devenir ce que tu veux, tu peux choisir ce que tu veux et qui tu es. Mais qu'est-ce qu'on dit aux petits garçons? Quels stéréotypes de genre sont présents tout autant sur eux? Y a-t-il à déconstruire des principes de masculinité? Y a-t-il des pratiques de domination à déconstruire aussi? Des injonctions peut-être à la virilité? Est-ce que cette conversation a vraiment eu lieu avec les garçons? Est-ce qu'il n'est pas temps de l'avoir aujourd'hui? Comment éduquer les garçons post-MeToo? La conversation commence ici même et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Vlad, c'est vous le premier, soyez le bienvenu et bonsoir.
Oui, bonsoir. Bah, écoutez, tout à l'heure, j'ai écouté le thème de votre émission et j'avoue que ça me fait un peu sourire parce que c'était la grosse question, comment éduquer les garçons. Et moi, je vous juste un témoignage de mon fils, de notre fils qui a aujourd'hui 30 ans, qui s'appelle Clément et qui a 8 ans. Un jour, il est rentré de l'école et puis il a dit, il a eu une sorte d'allusion à propos des filles. Comme si les filles ne valaient moins que les garçons, quoi, avaient moins de force, moins de courage, moins de.
Ouais. Enfin bref, c'est pas grave, c'est une fille, quoi. C'était ça l'idée.
Oui, voilà, exactement, ce genre de. Mmh. Et du coup, je me souviens très bien l'avoir pris à part et puis essayer de lui expliquer que les femmes ont moins de force physique, mais en dehors de ça, si on parle de courage, si on parle de ténacité, on a plutôt souvent des leçons à recevoir. Et donc, en tant qu'homme, son rôle avec sa force physique, c'est plutôt de les protéger que de se sentir supérieur à elle. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans cette histoire, c'est que on n'en a plus jamais entendu parler. C'est-à-dire que, tout ça, c'était il y a plus de 20 ans. Et je n'ai jamais entendu avoir des propos sexistes depuis. Donc c'est pas si compliqué. Enfin, de mon témoignage, on va dire.
Écoutez, mais j'espère bien d'ailleurs que c'est pas compliqué pour la plupart des gens, Vlad, par ailleurs. Ouais, parce que faisons pas non plus de fausses généralités. Merci beaucoup en tout cas pour cette jolie entrée en matière pour discuter ensemble ce soir autour de ce sujet. Edith Valéla, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur
Fabienne.
En psychologie, auteur de Le Matrimoine de Paris. C'est aux éditions Christine Bonneton. Vous étiez là il y a pas si longtemps, Edith Valé. On est content de voir que vous êtes revenu. Et bonsoir à vous, Maxime Brusniewski.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de la Fondation des Femmes qui a lancé donc le fameux hashtag Tu seras un homme, mon fils, et la fameuse campagne qui est visible. Donc je le disais sur les chaînes de télé publiques ou privées, ce sera valable pendant tout le mois de juin. Je voudrais revenir sur le témoignage de Vlad et on va commencer avec vous, Maxime Brusniewski. Parfois c'est facile de donner des messages. L'idée c'est pas de dire dites donc, il faut tout refaire et tout déconstruire. Parfois c'est simple, mais parfois ça va mieux en le disant aussi. En fait, tout simplement.
Oui, je crois que ce monsieur nous a rappelé que engager une discussion avec son fils, avec sa fille à table, dans un moment comme ça informel, ça peut paraître évident, mais ça n'est pas tant que ça. Il y a encore très peu de temps, vous rappelez, la question d'égalité entre les femmes et les hommes a permis de lancer des espèces de polémiques extrêmement douteuses sur une prétendue théorie du genre dont tout le monde avait entendu parler, mais personne ne savait exactement ce que c'était, un peu comme le monstre du Loch Ness, vous savez. Mm-hmm. Et on a essayé de nous faire croire que ce sujet de l'égalité divisait les Français. Encore très très récemment, je suis sûr que les auditeurs et les auditrices s'en rappellent.
Bien sûr,
et
ici au téléphone, ça n'y compris.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, ça commence enfin à faire un peu consensus. Les gens réalisent qu'on a besoin de parler de ce sujet et que si on ne le fait pas dès l'enfance, si on ne le fait pas dès la toute petite enfance, c'est autant d'années qui sont perdues. Pourquoi ? Parce que ces petits stéréotypes dont on parle souvent de manière anecdotique, ils ont des conséquences extrêmement graves des années plus tard. Et notamment, en ce qui concerne la violence, les enfants qui baignent dans un climat de violence à la maison reproduisent ces faits de violence bien des années plus tard. Donc on y reviendra, je pense, dans l'émission, mais oui, il faut parler de ce sujet à la maison. maison.
Et en même temps, si je veux couper les cheveux en 4000, pardon Vlad, parce que c'est vraiment pour le principe de la discussion, mais j'entends Edith Vallée que Vlad dit à son fils, non mais attendez, vous savez, les femmes ont besoin parfois d'être protégées. Et j'ai presque envie de répondre, oui mais enfin, on peut se débrouiller toute seule aussi.
Voilà, c'est ce que j'ai pensé immédiatement. Et puis
mais
j'ai pensé
aussi pour vous taquiner, Vlad,
autre chose. J'ai pensé que, en effet, c'est essentiel de parler, mais ça m'a renvoyé à l'idée que on peut évoluer très vite à un niveau individuel parce que l'intelligence est souple et parce qu'on est dans un échange clair. Mais c'est il faut tenir compte aussi de la complexité de l'humain. Et l'humain n'est pas qu'une pensée individuelle. L'humain est constitué beaucoup de mentalités. Et les mentalités sont extrêmement lourdes à bouger, à pousser. Et en fait... On est englué dans les stéréotypes et c'est pas parce que à un moment on pense réellement que les femmes et les hommes sont dans une relation d'égalité que c'est vrai.
Englué dans les stéréotypes, je le disais tout à l'heure en introduction. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait de la déconstruction en fait réellement? Est-ce qu'il y a Maxine Rozdemski par exemple, je sais pas comment vous avez été élevée, vous j'imagine très bien, vous êtes cofondateur de la Fondation des femmes, est-ce qu'il y a des injonctions de virilité y compris inconscientes de la part des parents parfois?
Absolument.
Vis-à-vis des petits garçons.
Et d'ailleurs personne ne peut donner de leçons ce qui concerne les stéréotypes parce que je le rappelle souvent, tout le monde et y compris les artisans d'égalité, j'aime bien les appeler comme ça, reproduisent des stéréotypes. Moi-même, je suis tonton, je suis sûr que j'ai reproduit des stéréotypes vis-à-vis de ma nièce et que je ne vais pas parler de la même manière qu'à mon neveu, c'est possible. Il faut s'interroger. Vous savez, ça part de choses qui peuvent paraître très anecdotiques, très anodines, mais quand on dit par exemple à une fille, t'es ma petite princesse, et un garçon, tu ne dois pas pleurer, qui ne l'entend pas ça? Y compris dans des familles qui s'interrogent beaucoup sur ces concepts d'égalité, de parité, de sexisme. On l'entend tous les jours. Mais pourquoi c'est important? Parce que ce phénomène de princesse, on peut s'y attarder deux secondes, c'est assez marrant. Pourquoi dans les contes, 90% des héros sont des hommes? Pourquoi les princesses sont là dans un rôle de passivité, d'attente? Elles attendent le prince charmant. Vous savez, elles ne sont pas capables de se prendre en main. Leur vie, ce n'est pas possible. Alors, oui, ça nous fait sourire. Sauf que des dizaines d'années plus tard, les femmes, et ça, pour le coup, toutes les études le montrent. Pas toutes les femmes, bien heureusement, mais les femmes, de manière plus significative que les hommes, ont du mal à négocier leur premier salaire. Elles ont du mal à négocier une augmentation quand elles se retrouvent dans le bureau de leur patron. Pourquoi? Parce que justement, elles ont baigné, petites, dans cette espèce de mouvement, de phénomène où on les a peut-être moins encouragées à s'affirmer. Voilà pourquoi c'est important.
Et elles sont princesses et elles sont chouchoutées parce que justement pour leur faire avaler la couleuvre. Parce qu'en réalité, et l'histoire nous le montre bien, l'histoire et la violence et MeToo existent parce que l'histoire a ouvert les portes au dénigrement qui stagne au fond des mentalités. Et dire à une petite fille, c'est une princesse, mais c'est aussi pour essayer de lui faire avaler qu'elle est faible, qu'elle est soumise, qu'elle a besoin d'être protégée, et que son idéal, ça sera, par exemple, bien sûr, la maternité. Et on voit bien que l'histoire a occulté ce que sont les femmes remarquables du passé. Il n'y en a plus. Enfin, il y en a si peu. Il y a quelques icônes.
On y revient tout le temps et on y revient doucement. La preuve, le Panthéon, la preuve, des choses comme ça. Mais effectivement, vous le disiez, il y a un retard, j'allais dire considérable. Oui, il y a un retard considérable à rattraper. Bonsoir Isabelle, pardon. Allez-y Isabelle.
Je suppose que c'est moi.
Ah ben, je pense que c'est vous Isabelle. Vous êtes la seule sur mon tableau
d'accord.
à vous appeler Isabelle.
Oui, j'aurais
donc,
pu en avoir
allez-y. Allez-y,
alors,
Isabelle.
Moi, je voulais témoigner d'une expérience intéressante que j'ai faite parce qu'il se trouve que j'ai deux garçons qui ont 14 ans de différence et je n'ai pas du tout élevé le deuxième comme le premier. Et moi, je suis issue d'une famille de 8 enfants, dont 5 garçons. Et je suis plutôt masculine malgré certaines apparences. Et j'ai eu le souci, à cause de tout ce que j'entendais autour de moi, les hommes, faut voir, les femmes, faut voir. Je ne voulais surtout pas que mes garçons évoluent là-dedans. Et puis, c'était pas du tout mon état d'esprit. Et j'ai fait en sorte, dès tout petit, donc avec le plus jeune, qui a 27 ans aujourd'hui, de l'amener à cette sensibilité sur les filles, elles disent les choses différemment, mais ce n'est que dans la forme. Et en fait, il faut que tu apprennes à entendre la façon de dire des filles, de la même manière qu'elles vont apprendre à ta façon à toi. Et ce n'est pas en les contrant, ni elles en te contrant, que vous y arriverez. Et bon, voilà. Et je ne sais pas comment ils se débrouillent après sur le terrain, à l'école et autres, mais ce que je sais, c'est qu'il avait énormément de copines filles. Et les parents très heureux que leur fille ait un copain si gentil, si facile à vivre, qui ne les tape pas, qui ne les rabroue pas, etc. Et petit, par exemple, il voulait jouer à la dinette, il a eu de la dinette, il ne voulait pas de voiture, il n'a pas eu de voiture. Je lui ai lu des contes, surtout pas les versions édulcorées. Et je l'ai fait grandir avec ça. Et j'ai une anecdote qui traduit assez bien sa relation aux filles ou aux garçons. Il se trouve que je suis dans la ferme, mais je suis une femme. Un jour, je suis rentrée à la maison, il faisait la vaisselle, parce que le mercredi, c'est lui qui faisait la vaisselle. Et mon compagnon, à l'époque, m'a dit, tu me rejoins sur le Vieux-Port. J'ai dit, écoute, d'accord. Donc j'ai dit à mon fils, écoute, je pars sur le Vieux-Port. Si tu veux, tu viens après. Et il m'a dit, ouais, ok, pas de problème. Et ça a été d'une simplicité banale. Mmh. Il m'a pas dit, ouais, alors moi, je fais la vaisselle. Non, pas du tout. Pour lui, c'était parfaite normalité.
Et ça, Isabelle, pardon, c'est votre fils cadet, c'est ça, celui-là?
C'est mon fils cadet.
D'accord.
Oui.
Et du coup, quand vous dites que vous avez élevé votre fils aîné différemment, ça veut dire quoi? Par exemple, vous n'avez jamais surpris votre fils aîné en train de faire la vaisselle, j'imagine.
Je ne me posais pas tant de questions parce que je n'étais pas suffisamment adulte, je pense, moi-même, et que cette confrontation à ce type de discours ne m'interpellait pas encore. J'avais aussi, je pense, beaucoup de choses aussi à structurer dans ma vie à l'époque. Et c'est quelque chose que j'ai fait de façon tellement approfondie que j'ai décortiqué toutes sortes d'aspects dont j'ai voulu faire bénéficier mon plus jeune fils. Mon fils aîné a bien compris finalement d'ailleurs cette idée-là. Et il est intéressant de voir que tous les deux ont une compagne qui a de la personnalité. Je les vois être ensemble et je vois qu'il y a vraiment un schéma d'égalité entre eux. Alors je vois plus avec mon plus jeune fils pour diverses raisons que pas lieu de détailler, mais on a énormément passé de temps à avoir toutes sortes de discussions. Et il a par exemple une très grande confiance en moi. Il n'a jamais remis en question ce dont on pouvait parler ou ce que je lui disais, parce qu'il savait que je ne lui racontais pas de bobards. Il savait aussi, et mes deux fils savent, que je suis un peu une guerrière de la vie, entre guillemets, et que j'ai fait bénéficier de mes leçons. Et en même temps, je leur ai jamais dit, tu dois faire ça. Je les ai toujours poussés à la réflexion en leur disant, voilà, essaye de voir un peu plus loin là-dedans, par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu vois, sans jamais les obliger, mais toujours avec cette nuance. La femme qui est à égalité par rapport à toi, tu n'es pas moins, tu n'es pas plus. Et lui dire pourquoi, j'entendais tout à l'heure, moi aussi j'ai réagi quand il a été question de protéger les femmes. Moi dans ma vie, je n'ai personne qui m'a protégée et je me suis blindée, puis déblindée parce que j'étais prête à affronter la vie telle qu'elle était. Et je dois dire que ponctuellement, un homme ou une femme peut avoir besoin qu'on l'aide et qu'on le protège, mais pas la femme de façon systématique, ça c'est clair.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. Edith Vallée, je vous voyais approuver du chef régulièrement en écoutant Isabelle nous raconter cette éducation, j'allais dire, encore une fois, facile en fait, au fond facile.
Oui, et facile pourquoi? Parce que cette maman qui est une guerrière de la vie a une immense écoute vis-à-vis de ses enfants. Et je crois que ce qu'elle a mis en œuvre, c'est l'éveil du talent personnel de chacun. Elle a compris les aspirations de l'aîné et du cadet. Elle les a soutenues. Et c'est tout à fait... Il n'y a pas d'autre ambition, finalement, que d'être soi-même. Et à propos de ce qu'elle a fait, je voudrais dire qu'il y a un bénéfice extraordinaire à ce que des garçons jouent aussi à des jeux dits de filles. J'ai une expérience qui s'est faite en Norvège, en 2017. On donne à une école... à une classe, 6 mois des jouets de garçons, 6 mois des jouets dits de filles, et on constate à la fin de l'année que les filles et les garçons ont un résultat équivalent. Alors que auparavant...
Un résultat scolaire, vous voulez dire ?
Des résultats scolaires, okay. Pardon. Mm-hmm. Alors qu'auparavant, on voyait toujours les filles avoir de meilleurs résultats sans cette répartition différente des jouets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
les garçons...
Que le
niveau des filles baisse si elles jouent avec des jeux de garçons.
Non, ça veut dire que les filles, moi je pense que les filles de toute façon, elles jouent avec des Legos. Mais le fait d'avoir sensibilisé les garçons à ce que peut apporter un jeu dit de filles, a déployé, a ouvert quelque chose, et notamment quelque chose qui a à voir avec l'intelligence.
Bonsoir Philippin.
Quelque chose.
Pardon ? Bonsoir Philippin.
Oui, bonsoir.
C'est vous que je voulais entendre. Je vous écoute Philippin, oui. Allez-y.
Voilà. Mais écoutez, moi, d'une part, j'ai 4 sœurs et un frère, et j'ai eu une éducation de par mes parents, pourtant d'avant la Première Guerre, hein, donc une éducation très classique, mais qui n'ont pas fait de sexisme dans leur manière de nous éduquer. Je n'ai jamais eu, de la part de mon père, aucune réflexion, je n'ai jamais entendu aucune réflexion qui soit sexiste. Donc ça compte beaucoup dans la formation, dans l'éducation qu'on reçoit. Et puis, par ailleurs, bon, j'ai un fils, je pense que sa maman et moi, nous procédons de la même manière. Et en tant qu'enseignant, eh ben de même, et je dois dire que par contre là, et y compris avec les parents d'élèves que l'on a assez souvent, on perçoit bien les différences qui peuvent exister, qui peuvent y avoir, dans la manière de se comporter à l'égard des filles, à la différence des garçons, et y compris chez des collègues enseignants, donc personnellement enseignant en éducation physique et sportive, où l'on insiste encore beaucoup trop souvent sur des activités qui doivent faire en sorte que les filles soient plus attirantes au regard masculin.
C'est-à-dire de la danse et de la gym pour les filles et du handball pour les garçons, ça l'idée ?
La danse, ça n'est pas gênant. Non, on pratique toute activité confondue, mais quand même, il n'y a pas tous, évidemment, heureusement pas la majorité, il y a encore quelques subsistances à travers certaines activités plutôt qui vont vers le fitness. Alors il y a tonnes de modes comme ça d'activités où on retrouve essentiellement d'ailleurs des filles et des femmes ensuite, bien sûr, mais que l'on a mise en pratique dans les établissements scolaires et qui vise quand même à cela, à savoir que les filles soient plus attirantes donc pour le garçon, soient plus physiquement sexy presque à la limite, je vais oser ce terme-là, y compris dans la tenue vestimentaire. Bon, ça c'est dans la vie en général aussi, bien sûr. C'est aussi à travers certaines activités physiques et sportives où l'on voit bien que la fille est quand même toujours un objet sexuel quelque part, puisque on la voit être habillée avec des tenues plus découvrant davantage son corps que les garçons, etc. Et ça, c'est quelque chose que la société devrait prendre en compte davantage. Et je suis à me demander, mais pourquoi on en est encore là et comment on en arrive ensuite à des phénomènes du type de ces hommes, dont certaines politiques qui ont défrayé la chronique il y a quelques années, qui en plus usent de leur pouvoir à l'égard des femmes. Ça n'est pas la fatalité pour moi, ça n'est pas inéluctable. Il suffit que l'on veuille vraiment prendre les choses en main et que l'on ne laisse rien passer, y compris de nos élèves, quelquefois, qui peuvent déraper par rapport à ce qu'ils ont vécu, entendu chez eux ou dans leur entourage, en général.
Merci beaucoup, Philippe. Maxime Rozievski, effectivement, ne rien laisser passer de ce qu'on entend, nous explique Philippe, il a raison.
Oui, le témoignage de ce monsieur est extrêmement intéressant parce qu'il nous alerte sur l'hypersexualisation des petites filles, qui est un phénomène qui va de pire en pire, et je crois qu'on est en droit de s'interroger collectivement sur ce qu'on peut faire, parce que l'école a un rôle fondamental. On a parlé de la famille, mais malheureusement, on n'est pas tous égaux sur la politique, enfin sur ce qui se passe dans les familles françaises. En revanche, l'école, c'est un socle de valeurs, de transmission, et l'hypersexualisation des petites filles, c'est ce que je le disais, un phénomène qui s'aggrave. Pourquoi ? Parce que les enfants consomment de plus en plus tôt des images extrêmement caricaturales sur ce que c'est que la force, la virilité. Les filles ont des modèles, malheureusement, qui avant étaient ceux de la télévision et qui aujourd'hui aujourd'hui sont sur Internet et qui sont extrêmement agressifs, hein, il faut employer ce terme. Et en cela, les professeurs, dès la maternelle, hein, d'ailleurs le président de la République, et ça m'a marqué, a dit le 25 novembre dernier qu'il fallait s'attaquer à ce sujet dès l'école maternelle, ce qui est assez ambitieux, hein, puisqu'on parle d'enfants qui ont 3 ans. Dès la maternelle, les enseignants doivent interroger les élèves collectivement. Ça peut être des séances de débat, on n'est pas obligé de faire la morale aux enfants en leur expliquant que ce qu'ils regardent sur Internet, c'est pas bien. Non, ce qu'il faut, c'est interroger les stéréotypes, interroger leur représentation de l'homme, de la femme, des différences, parce qu'à l'école se nichent aussi des stéréotypes et des inégalités au quotidien. L'exemple typique, c'est ce qui se passe dans les cours de récréation. Tout le monde peut constater qu'aujourd'hui, encore en 2018, si vous regardez une cour de récré, la plupart de l'espace est occupé par les garçons et pas par les filles. Comment est-il possible que ça se passe encore comme ça aujourd'hui? Donc l'école, vraiment, c'est un lieu fondamental pour interroger ces questions.
Manspreading, version tout petits enfants, Edith Vallée.
Alors, je voudrais revenir sur le témoignage de Philippe. Il est extrêmement intéressant. Oui, hypersexualisation des filles, c'est sûr. Il n'a pas dit l'autre pendant qui est la maternité. On les prépare également à la maternité. Donc, finalement, on est en face d'une société qui construit le féminin sur le corps sexuel, objet de désir, Philippe a dit attirante pour les garçons, donc c'est au service du désir des garçons. Et la maternité, qui est le lieu perçu par la société comme le lieu de la reproduction des enfants. Or, voici donc les femmes limitées à un corps. Et ceci est tout à fait extraordinaire à mettre en regard de ce qui se fait dans l'histoire. L'histoire n'a retenu pratiquement rien, justement, des productions des femmes du passé, de leur héroïsme, de leur créativité, de ce qu'elles ont pu penser, inventer.
Tu veux dire qu'il n'y a pas de modèle au féminin, c'est ça que vous dites en creux, Edith Vallée?
Il y a très peu de modèles au féminin cette disparition des femmes de l'histoire est vraiment le témoignage du dénigrement qu'il existe toujours au fond des mentalités. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Le matrimoine de Paris, pour éclairer les femmes qui sont restées que l'histoire a oubliées, pour mettre en lumière aussi les femmes que l'histoire a retenues. Il y en a quelques-unes, mais l'histoire en a fait des icônes. Et pour, en effet, que les filles aient des sources d'inspiration nouvelles, pour que les garçons se rendre compte, surtout, puisqu'on est là pour parler aussi de l'éducation des enfants, des garçons, pour que les garçons aient des modèles féminins formidables. Mais dans mon livre, il y a des modèles masculins également. Il y a des hommes féministes. Et là, je pense que si on veut travailler sur ce problème, il faut y travailler collectivement. Et je fais partie d'une association, HF Île-de-France, qui met en place des parcours du matrimoine au moment des journées du patrimoine. Et comme ça, collectivement, le public s'empare de ces modèles, de ces nouveaux modèles féminins. Et c'est, je pense que c'est comme ça, en profondeur et collectivement, que les mentalités sont en train de changer.
Bonsoir Pierre-Henri.
Oui, bonsoir.
Et soyez le bienvenu au téléphone sonne, Pierre-Henri, on vous écoute.
Merci. Alors, je vois que j'arrive un peu plus tard, donc je me rends compte que mon intervention a déjà été
largement. Non, vous arrivez pile, allez-y.
Mais c'est bien ce que j'entendais, c'est que j'arrive pile. Et effectivement, quand j'entends qu'il faut traiter le problème collectivement, c'est quelque chose qui vibre particulièrement chez moi. Je suis éducateur spécialisé, je suis surtout le papa d'une petite fille et de deux garçons, et donc cette question d'éducation me touche donc particulièrement, intimement, j'ai envie de dire. Et puis j'ai été un petit garçon aussi, hein. Et c'est vrai que de manière, j'ai appelé tout de suite France Inter quand j'ai entendu l'intitulé de l'émission, parce que j'avais envie de réagir tout de suite en me disant, mais il faut pas qu'on traite le problème juste par le prisme des petits garçons, parce que j'ai vraiment la sensation, l'intime conviction que on est toujours en train de cliver les petites filles, les petits garçons, les ressentis, les émotions, et de traiter le problème juste par l'angle des petits garçons, finalement c'est revenir à faire exactement la même chose. Le problème c'est pas les petits garçons, c'est le problème c'est nous tous, comment on vit ensemble, comment on ressent ce que ressent l'autre, comment on peut être en empathie. Et puis voilà, donc j'avais vraiment envie de réagir là-dessus en se disant, mais il faut pas focaliser sur un genre ou sur un autre, mais vraiment le globaliser. Et puis effectivement, des modèles féminins pour des petits garçons, c'est merveilleux, c'est parfait. Des modèles masculins pour des petites filles, c'est génial aussi. Donc c'était un témoignage que je voulais faire.
Eh ben très bien, Pierre-Henri, on est content de l'avoir eu, votre témoignage. Et Maxime Rusnevski, pardon, vous vouliez réagir.
Oui, juste un mot, parce que notre campagne « Tu seras un homme, mon fils », effectivement, montre essentiellement, voire exclusivement, des papas avec leurs fils. Je rejoins complètement ce que dit monsieur et son discours très universaliste. Simplement, il faut quand même constater que depuis quelques années, de nombreuses campagnes sur l'égalité entre les sexes sont montrées à la télévision ou à la radio, et que ce sont essentiellement, voire principalement, des femmes qui y sont montrées. Or, les faits de violence dans ce pays sont, plus de 9 fois sur 10, le fait d'hommes sur des femmes. Donc, on ne peut pas ne pas prendre en compte ce problème. On ne peut pas dissimuler la question de la masculinité dans la question des violences faites aux femmes en France. Ce clip, c'est aussi une manière d'interroger l'éducation des petits garçons, parce qu'aujourd'hui, les faits de violence sont le fait de manière extrêmement majoritaire, des hommes.
Et l'idée, c'était peut-être aussi, Edith Vallée, vous allez nous aider à répondre à cette question-là. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup, on l'évoquait en début d'émission, après les histoires de MeToo et de Balance ton port, des hommes qui se posaient la question, qui disaient, mais alors attends, comment est-ce qu'il faut qu'on se conduise désormais? Comme s'il y avait une espèce de forme d'interrogation. C'est bien aussi de redire, y compris aux jeunes hommes, il faut se conduire normalement. C'est juste ça. En fait, c'est pas plus difficile que ça.
Et je pense qu'il faut surtout s'exprimer, parler de ce que l'on ressent. Et je pense que c'est la meilleure solution à adopter quand, par exemple, on constate une agression dans une cour d'école, deux enfants, enfin un garçon qui agresse une petite fille. Il faut immédiatement demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ça s'est passé. Et ensuite, je pense que ce qui est très important, c'est d'institutionnaliser l'événement d'une façon symbolique, c'est-à-dire que il faut qu'on en parle si vraiment c'est grave et s'il y a réitération, on en parle entre les quatre parents ou bien dans la classe, etc. Et c'est quelque chose qui se construit, parce que si on en est là de la violence des uns contre les autres, eh bien c'est parce que la société le permet, en fait. C'est parce que la société est porteuse de ce dénigrement du faible, puisque les femmes ont été considérées comme faibles ou fragiles, etc. Donc, c'est la société qui a fabriqué ça. Donc, je pense que c'est à la société de restaurer. C'est au collectif à dire non, on n'est pas d'accord pour que ça se passe comme ça. Cela dit, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est étouffer l'agressivité. L'agressivité, elle est extrêmement utile pour l'élan vital de l'humanité. Mais il ne faut pas qu'elle devienne violence, mais de l'agressivité, il faut faire de l'énergie.
Et regardez, écoutez ce témoignage qui nous vient de franceinter.fr. Ma fille est en CM2. À la récréation, les garçons occupaient une grande partie de la cour pour jouer au foot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les filles, elles, se débrouillaient avec le reste de la surface pour jouer au handball. Elles sont d'elles-mêmes allées voir les maîtresses pour protester, réclamer que les deux terrains soient à partager équitablement. Depuis, un jour sur deux, les filles ont le grand terrain et un jour sur deux, ce sont les garçons. Et bravo les filles. C'est comme ça que ça se passe, Maxime Rusnevski.
Alors après, on va encore nous dire, ça y est, un quota 50-50, nous mettre des quotas partout, parce que ça, c'est la critique qu'on entend très souvent. Je trouve que l'initiative de cette petite fille est absolument remarquable, parce qu'il ne faut pas du tout sous-estimer le courage qu'elle a eu d'aller voir sa maîtresse. Mmh. À mon avis, elle allait voir les garçons, mais peut-être que les garçons l'ont envoyé balader. Donc, à l'école, oui, évidemment qu'il faut aller voir la maîtresse, les enseignants, le directeur d'établissement. Mais moi, j'aime encore mieux que les surveillants dans la cour de récré et que les profs s'en rendent compte et manifestent leur désapprobation.
On va entendre Étienne dans une petite seconde. J'ai juste une question derrière, parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction et qui résonne sur la conversation qu'on a en ce moment. Nous, les filles, les femmes, le discours sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons être, sur ce que nous pouvons faire, on l'a beaucoup macéré, on en a beaucoup parlé, on a dit beaucoup de choses, nos mères nous ont appris des choses. Mais qu'est-ce qui fait, Edith Vallée, que cette conversation, finalement, n'a pas eu lieu chez les hommes, en fait. La réflexion sur, y compris sur la masculinité, en fait, n'a pas eu lieu pendant que nous, on avait une vraie réflexion sur le féminisme et aussi la féminité.
Oui, c'est normal. Enfin, c'est pas du tout normal, pardon. C'est logique. C'est logique, puisque on a toujours valorisé chez le garçon l'action, la mesure de sa virilité par rapport à sa façon de se comporter avec les autres. Et chez les filles, on a favoriser la sensibilité. Et si on favorise la sensibilité, c'est qu'on on mise sur la parole. Et en fait, les femmes sont beaucoup plus dans la confidence du sentiment, dans la parole, dans la sensibilité que les garçons. Et la parole est beaucoup plus passée entre femmes.
Bonsoir Étienne.
Oui.
Salut Étienne. Tu as 10 ans Étienne, oui. Raconte-nous.
Bah, j'ai 10 ans, ouais, je fais de la danse et puis bah, souvent je reçois des commentaires par mes amis comme quoi bah, je fais de la danse et... Bah, d'après eux, c'est mal, et donc, bah, voilà, je voulais faire entendre ça.
Eh ben, c'est bien de nous le faire entendre, et c'est bien de persister, surtout. Ça fait combien de temps, Étienne, et qu'est-ce que tu réponds quand on te dit, parce que j'imagine qu'on dit c'est un truc de fille, la danse.
Bah, ouais, souvent, mais, ouais, mais je fais avec.
C'est de la danse classique que tu fais, ou du...
Bah, je fais classique et jazz.
D'accord. Et du coup, tu fais avec, vous êtes combien de garçons à votre cours de danse?
Y a pas de garçons.
Ah oui, c'est toi le seul. Et pourquoi t'as eu envie de faire de la danse?
Bah en fait j'ai eu un problème au bras donc j'ai dû bah, faire de la danse et puis bah je me suis pris de passion avec la danse donc j'ai continué.
Bon et alors j'ai une curiosité parce qu'avec tes copains des fois ça se passe pas très bien parce qu'ils trouvent que c'est un truc de fille mais est-ce qu'avec les filles ça se passe très bien et elles trouvent ça plutôt bien d'avoir un garçon au milieu d'eux ou est-ce qu'elles aussi finalement elles te regardent en disant qu'est-ce que tu fais là, t'es le seul garçon?
Bah, je sais pas, mais je suis un peu à part, mais ouais.
Tu te sens un peu à part quand même dans ouais. ton cours de danse ou pas?
Oui.
Et ça fait combien de temps que tu fais de la danse?
3 ans.
Et visiblement, tu persistes quand même.
Oui.
Eh ben, bravo. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire, Étienne, okay. C'est persister et,
On sur scène, Étienne. Voilà. Il faut que tu continues. Voilà. Vraiment. Très longtemps.
Et Maxime, surtout, de venir t'applaudir.
Ce qui est merveilleux, c'est qu'il a trouvé une passion. Et c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'est que l'énergie que l'on peut mettre dans la violence, mettons-la donc dans une passion.
Ça construit aussi d'être capable de dire « Attendez, je fais de la danse si je veux », exactement comme une fille pourrait dire
voilà. «
Je fais de la lutte gréco-romaine » ou je ne sais quoi.
Toutes les femmes de ce livre, de Le Matrimoine de Paris, pourquoi on
aux
en parle?
Aux éditions Christine Bonneton, je le tiens, ne vous inquiétez pas.
Toutes ces femmes-là sont allées au bout de leur passion. C'est ça qui est formidable.
Maxime Rusnevski.
Non, je voulais juste parler d'Étienne parce que son témoignage est évidemment extrêmement touchant et tout le monde se dit, mais oui, il faut qu'il continue la danse, évidemment, mais il n'y a rien d'évident pour un enfant quand il allume la télévision et qu'il voit que l'immense majorité du temps d'antenne de sport retransmis concerne les hommes, que des journaux vraiment nationaux titrent à chaque fois les Bleus. Par exemple, j'ai vu il y a très peu de temps, les Bleus ne sont déjà plus à Roland-Garros, alors que Caroline Garcia a joué une heure après. Mais comment voulez-vous que les enfants puissent voir qu'il y a un éventail de possibles beaucoup plus important qu'ils ne le pensent, si les référents, si la télévision, si les médias ne leur montrent pas plus de sport féminin. Et je sais que, par exemple, le CSA travaille dur en ce sens, et je rends hommage d'ailleurs à Sylvie-Pierre Brosselet qui fait un gros travail sur ce sujet, mais maintenant il faut vraiment la suivre parce qu'on a besoin de plus de sport féminin dans les médias.
Tiens, ce message sur Twitter de la part de Véro qui dit « J'anime des groupes de parole avec des enfants de 4 à 11 ans. J'ai été surprise de leur grande faculté à interroger, à remettre en question les stéréotypes beaucoup plus que les adultes en fait, et donc bien sûr qu'il faut ouvrir ces espaces à l'école. Edith Vallée, ça veut dire que évidemment que les enfants s'en rendent compte par ailleurs de ces stéréotypes finalement qu'on leur sert.
Oui,
compris nous à notre corps défendant, comme le disait Maxime tout à l'heure, effectivement, même sans le vouloir, nous aussi on en véhicule et on en déverse beaucoup.
On en véhicule, mais ce qui sauve l'enfant, c'est que il a un imaginaire formidable et quelquefois il se passe très très bien des stéréotypes pour se lancer dans ce qui lui plaît. Et en fait, c'est la passion qui sauve. Puis, j'ai vu une petite vidéo où on demandait à une fille comment est-ce que tu cours? Et elle courait le plus vite possible. Et puis après, on a demandé à des adultes, montre-nous comment une fille court. Et là, c'était une catastrophe. Aussi bien les hommes que les femmes couraient le plus mollement possible, où ils lançaient le poids en se le recevant sur le pied. Enfin bon, je veux dire que le pire dans les stéréotypes, effectivement, c'est les adultes. Et justement, c'est l'histoire, parce que l'histoire est faite par des historiens qui écrivent l'histoire au masculin et qui ne s'occupent pas des productions des femmes.
Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
On vous écoute Christelle, allez-y.
Oui, moi je voulais intervenir. Bon, tout d'abord, je voulais bien préciser que je suis d'accord qu'il faille complètement lutter contre tout cet érotisme, que les filles doivent prendre conscience en elles. Mais je voulais aussi mettre le doigt sur le fait que les garçons ont par du fait qu'on leur donne beaucoup de responsabilités, dans le sens que dans leur futur, ils ont l'image que c'est eux qui devront pourvoir économiquement, financièrement, donc à une famille, de devoir protéger les enfants, de devoir protéger leurs femmes, etc. Et ça, moi, dans mon entourage, je vois beaucoup de filles qui se disent, si j'ai pas un métier, si je n'ai pas vraiment fait d'études, c'est pas grave, je me trouverai quelqu'un qui me sauvera. Et peut-être que si les garçons prenaient conscience aussi de ça, les filles sont égales aux garçons, eh bien, ça les libérerait de ce poids qui peut être parfois pesant.
Merci beaucoup, Christelle, pour ce témoignage. Edith Vallée, je vous vois approuver. Bien sûr qu'on met du poids sur les épaules des garçons.
Oui, et elle a raison. Elle a complètement raison. Un couple, ça se construit ensemble. Et il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit dépendant de l'autre. Et quand on dit que les couples sont complémentaires...
Pas de raison que ce soit moins grave pour l'un que pour l'autre, parce que c'est ça qu'on entend en creux. Effectivement, t'es une femme, ouais, c'est moins grave. Si tu réussis pas, tu vas te trouver un garçon.
Il y en a toujours un qui est moins complémentaire que l'autre.
Mais surtout, les hommes aussi ont tout à gagner à l'égalité. On le rappelle pas assez. Hein, et cette dame parlait de pression. Il y a un phénomène dont on parle peu, mais le taux de suicide chez les hommes, dans le monde, hein, partout dans le monde, est beaucoup, beaucoup plus important que chez les femmes. Ça signifie qu'il y a une espèce de pression comme ça, intériorisée chez les hommes, de réussite, il faut absolument que je gère ma carrière, ma vie affective, tout. Et ça aussi, c'est lié finalement aux stéréotypes qu'on cultive dès l'enfance. Donc l'égalité sert aux hommes et aux femmes. Je reviens de Norvège, vous n'avez pas idée à quel point les hommes sont heureux là-bas, parce qu'ils assument de partir à 17h pour aller chercher leurs enfants à l'école et personne ne leur dit « Oh, t'as pris ta journée ». C'est important de valoriser ça.
Décidément, les pays nordiques à toutes les sauces, tout quoi qu'il arrive, c'est aussi le pays du Père Noël et tout le monde est super heureux. Maxime Drozdniewski, merci beaucoup.
Merci,
tu seras un homme, mon fils. La campagne de la Fondation des Femmes, elle dure pendant tout le mois de juin, donc on ne peut pas la rater.
Il faut la relayer sur
à
Internet.
À la télévision et la relayer aussi sur Internet. Edith Vallée, j'ai bien compris que le matrimoine de Paris, c'était aux éditions Christine Bonneton. Et merci à tous, portez-vous bien.